monde terrifiant, le monde flamboyant, ce fameux programme. Et pour en parler, voici autour de moi Christine Cachor, qui est là à droite, avec Sylvie Miller pour lui traduire tout ce qu'on dit et tout ce qu'elle dit. Auteur de trois romans qui s'appellent Quisling, Rouge et Peter Blue, qui sont tous les trois parus chez Orbit. À ma droite, Marika Gallman, qui est suisse. Donc, les trois romans sont bien présentés parce que je suis belge. Auteur de la saga Maeve Regan chez Milady, Rage de dents, dents pour dents, les dents longues, vous avez compris, ça parle de vampires. À la gauche, Fabrice Collin. Alors là, c'est très difficile de le décrire parce qu'il est mosaïque, multi-instrumentiste, on dirait, s'il était musicien. Donc, SF et fantasy, mainstream, thriller, polar, jeunesse, nouvelle, roman, scénario de BD. Disons que son tout dernier livre s'appelle « Ta mort sera la mienne », qui est un polar, paru cette année chez Sonatine. Et on parlera de tous ces mots tout à l'heure. Et enfin, à gauche, Alastair Reynolds, flanqué de Laurent Whale, qui va lui traduire, et traduire pour nous ce qu'il dit, britannique, et écrivain de hard science, même s'il n'aime pas trop qu'on dise ça, SpaceOp. Il a travaillé pour l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas pendant un temps, et puis en 2004, il s'est dit, après tout, j'écrirai bien et je gagnerai bien la vie en faisant ça. Et voilà, son cycle principal, c'est le cycle des inhibiteurs, l'espace de la révélation, la cité du gouffre, l'arche de la rédemption, et puis je ne sais plus le dernier, le gouffre de quoi ? Je ne sais plus. Chez Touché Pocket. Tu dois savoir, Laurent. Et c'est pas encore paru en français celui-là. Ça fait rien. Et aussi La pluie du siècle et Janus. Alors, monde terrifiant, monde flamboyant, ça veut sans doute dire que le monde que l'écrivain met sur papier, le décor qu'il s'invente, et ça compte. C'est ça qui est le principal dans une œuvre. Fabrice, c'est vraiment ça quand on écrit de l'imaginaire. C'est le monde créé qui compte d'abord.
Je pense que ça dépend des auteurs et de la façon dont on aborde la construction d'un récit. C'est vrai que dans la littérature de fantasy, notamment, où le but consiste quand même à créer un monde, et c'est aussi un des principaux plaisirs qu'on peut avoir en tant qu'écrivain, j'ai remarqué, pour avoir vu passer beaucoup de manuscrits dans des maisons d'édition, comme Brajlon par exemple, que ce qui va pousser souvent les aspirants écrivains de fantasy à écrire, c'est cette jubilation de créer un monde. Malheureusement, il ne suffit pas de savoir et d'avoir envie de faire ça pour faire un bon roman de fantasy, mais c'est vrai que c'est un prérequis quand même, et que c'est certainement la partie la plus enthousiasmante du travail. Après, dans la science-fiction, on se projette dans un avenir plus ou moins lointain, et plus on est loin dans le temps de la période présente, et plus on va aussi faire œuvre de créateur de monde. Donc je pense qu'il y a des similitudes entre ces deux approches. Mais évidemment, oui, moi je me suis toujours considéré comme un créateur de monde, même si j'avais pas trop ça, c'est un petit peu prétentieux, mais j'ai commencé dans le jeu de rôle, à travailler dans le jeu de rôle et à créer des mondes pour des jeux de rôle. Donc à l'époque, on s'appelait, je sais plus comment, les alchimistes de l'imaginaire, c'est un terme un peu ronflant comme ça, mais c'est pour dire, voilà, on crée d'abord des mondes, et dans ces mondes, on raconte des histoires. Donc oui, le monde a toujours été très important.
Christine, votre roman se passe dans un monde qui s'appelle les Sept Royaumes. Alors, comment avez-vous construit, imaginé, créé ce monde?
I have to agree with what Fabrice said, because it really does depend on the writer. And for me, my fantasy books are very character based, and the characters and the relationships and the plot is more central than the world.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Fabrice, tout en sachant en même temps que moi, je suis davantage un écrivain qui s'appuie sur les personnages, si bien au premier plan d'abord, quand j'imagine les histoires, ce sont les personnages et les intrigues qui vont les relier, et le monde se construit ensuite autour.
So it's kind of funny that you directed this particular question at me, because you directed it directly at, I think, the biggest cracks in my novel.
Ah, donc je trouve ça amusant que finalement vous posiez la question à moi, parce que vous mettez en évidence finalement les failles de mes romans.
When I created my world in Graceling, I was writing my first fantasy novel. I had no idea what I was doing. And I really let the world kind of build itself depending on what I needed for the plot.
Donc quand j'ai commencé à travailler sur Graceling, qui était mon premier roman, j'ai travaillé un petit peu, j'avançais au fur et à mesure, et j'ai laissé le monde un petit peu se construire au fur et à mesure en fonction des besoins de l'intrigue.
So for example, if my characters were moving too fast for the timeline I had set up for them, then I would change the landscape. I would decide, oh, well, obviously I need big mountains and an impenetrable forest here. So I would throw that out.
Quand, par exemple, je me rendais compte que les personnages progressaient trop vite par rapport à l'échéancier temporel que j'avais fixé pour eux, je me disais, bon, bah, faut les ralentir. Alors, oups, eh ben, on va mettre une grosse montagne ou une forêt impénétrable. Comme ça va les ralentir.
Which means that in later books, I was consequently stuck with an impassable mountains and impenetrable forest every time I needed someone to move around. But I learned a lot from that experience, and I grew, my world grew so that I expanded to a different part of the the planet in my second book, and was a lot more careful. It was still characters and relationships is still central, but I planned the world out a lot more carefully and used the world to assist with the mood that I was trying to create. But I'm a little embarrassed with the world building of my first book, to be completely honest.
Alors donc finalement, ce monde que j'ai construit dans le premier livre, finalement, bah, il a fallu l'utiliser dans les livres suivants. Donc bah, cette montagne que j'avais mis là, ou cette forêt, j'étais un petit peu embarrassée parce que du coup, tous les personnages se retrouvaient traînés parce qu'il fallait qu'ils passent par là. Mais en même temps, j'ai beaucoup appris, ce qui fait que ensuite, lorsque j'ai écrit les suivants, je me suis bien évidemment centrée, puisque c'était ce que je fais d'habitude, sur les personnages et l'intrigue, mais j'ai fait beaucoup plus attention au monde, notamment parce que je suis aussi sortie de cet environnement-là pour construire des choses autour. Donc, je suis effectivement beaucoup plus prudente maintenant quand je construis des mondes.
Donc, c'est votre monde étant en fin de compte, un décor, et pas plus que ça.
Ah, well, I hope not. I hope it's not quite that bad. I don't mean it to be. I'm as a reader, I'm a bit bored by fantasy or sci-fi novels that are all about the world. I'm interested in characters and relationships and power dynamics. So that is just, that's more important to me, but it's not the only important thing.
Ouais, donc j'espère que effectivement mes mondes ne sont pas aussi nuls que ça. mais quand je lis de la science-fiction ou de la fantasy, et qu'il y a comme ça des descriptions et des descriptions à n'en plus finir, des décors, et où finalement c'est que ça l'intérêt, ça m'ennuie très vite. Je reste quand même, moi, beaucoup plus centrée sur les personnages, la dynamique qu'il y a entre eux, même si le monde a son importance.
On va passer des sept royaumes à l'espace intersidéral avec Alastair. Et Alastair a imaginé aussi un monde intersidéral. Vous savez, en science-fiction, il suffit de prendre un trou de verre, comme on dit, pour aller d'un endroit à l'autre en quelques secondes, et cet autre endroit étant distant de quelques années-lumière, ou bien on emploie des vitesses supraluminiques. Chez Alastair, il est astrophysicien, hein, donc il préfère conserver les lois de la physique que l'on connaît. Alors, faire un monde comme ça en science-fiction, c'est un monde lent. Est-ce que c'est difficile à imaginer? Est-ce que c'est difficile à faire vivre, surtout?
Hello. Hi, everyone. My whole approach to world building, I think, is sort of similar to Christine, because I don't sit and think it all up beforehand. I often have a character in mind or a scene, and I'm not necessarily sure where they've come from, but I know that that's going to be the seed for a story, and then I start from that point and sort of try and work my way into the world and the story, but I don't think it out beforehand.
Mon approche est un peu similaire de celle de Christine, c'est je ne pense pas les choses en avance, je commence par créer des personnages et à partir de là, je construis mon univers.
And I'll give you an example, and then I'll say a little bit about the scientific side of world building.
Je vais vous donner un exemple et après je vous donnerai un exemple de... Oui, pardon, ça c'est deux fois. Donc, je vais vous donner un exemple de comment construire un monde scientifiquement.
I was listening to some music a few years ago. I like a lot of world music, and I've begun to listen to a lot of music from West Africa. And I just had a specific image that came to mind, which is of a woman of some authority on the deck of a starship, and she was having to take a difficult decision. And I thought, where's that come from?
Pardon. Il y a quelque temps, j'écoutais de la musique qui vient d'Afrique de l'Ouest. Et je devais créer un personnage qui était un personnage d'autorité sur le pont d'un navire spatial, qui était un capitaine de vaisseau, ou quelqu'un d'autorité sur le pont d'un navire spatial. Et
it was obvious that this woman was of African ancestry, her family was African, and the people around her were African. So I sort of had, that was the starting point, and then I had to sort of work out, okay, what society have they come from, how have they got there, how far in the future are we? So that was a sort of starting point, but I don't sort of begin logically and work my way to that position. I just start with an image.
Ouais, il était évident pour moi que ce personnage devait être africain, devait être une africaine, qu'elle devait avoir de l'autorité. Globalement, c'est ça, quoi.
But the sort of scientific stuff, like getting the sort of physics right and the, making sure the planets go around the stars in the right orbits. That's sort of boring, but I sort of, because I've got the scientific background, I'm not going to make really stupid mistakes, I suppose. So I sort of do, I don't, that bit for me is not really hard, not making the stupid mistakes, but I'll go back and sort of check some of the stuff later.
Le truc d'avoir les planètes qui tournent à la bonne vitesse, etc., dans l'univers, c'est un petit peu... Globalement, c'est chiant. Bon, je sais le faire parce que j'ai toute la science derrière. Donc, je fais des choses qui sont réalistes, mais c'est pas mon souci principal. Ça vient tout seul parce que j'ai l'expérience scientifique derrière.
You know, if I had to write a story that involved, say, medieval metallurgy, you know, like making swords 1,000 years ago, I wouldn't have a clue where to start. I wouldn't know anything. So that, for me, I would be well out of my comfort zone. But if I'm writing about interstellar travel and terraforming planets and artificial intelligence, that's sort of the stuff I like thinking about, so it sort of doesn't feel like work.
Si je devais écrire des choses à propos de mecs qui fabriquent des épées dans un monde médiéval, ça serait super compliqué pour moi. Mais à partir du moment où je dois parler de choses scientifiques avec des vaisseaux spatiaux, des vitesses intersidérales, etc. Là, je suis dans ma zone de confort, entre guillemets, je sais ce que je fais.
I just say one final thing, which is when I'm writing a novel, I do a draft, and then I go back and I do another draft, and then a third one, and there's a point somewhere in it where the world starts coming alive for me as the writer. One day it all feels a bit dead and flat, and then the next day it's, oh, okay, I've got something here. And that point for me is very satisfying as a writer, but I'm never quite sure when it's going to happen.
Quand j'écris une histoire, je commence par faire un brouillon, puis deux brouillons, puis trois brouillons, et puis à un moment donné, je me dis, tiens, là, je tiens un truc, et à partir de ce moment-là, l'histoire devient intéressante pour moi.
On va se tourner vers Marika, qui est un monde encore très très différent de ceux qu'on a, dont on a discuté maintenant. Donc, votre monde, c'est celui des vampires, un monde urbain, etc. Mais pour en revenir au thème, ce monde est-il terrifiant ?
Non, pas plus que le monde de tous les jours. Mais c'est vrai que je me demandais un petit peu ce que j'allais faire ici, en fait, au milieu de gens qui ont des univers beaucoup plus conséquents que le mien, qui est quand même la vie de tous les jours. Et j'ai en fait fait le travail inverse dans mon roman de création de monde, c'est que j'ai pris quand même pas mal de temps à faire en sorte que ça se passe nulle part. Ça se passe en même temps partout et nulle part. C'est dans une ville, mais elle n'est jamais citée. Ça pourrait être, ça peut être en Europe, ça peut être en Amérique. Ça m'a pris du temps. Au début, je me suis dit, c'est super parce que le lecteur pourra le mettre où il veut. Maintenant, moi, ça me crée quelques problèmes pour continuer dans l'intrigue. Mais j'ai vraiment fait donc, le travail inverse, en fait. J'ai fait du polissage pour le faire disparaître.
Oui, mais chez vous... Tout est dangereux, quand même aussi. Vivre dans ce monde est dangereux, mais donc il est terrifiant.
Disons que là où se situe mon intrigue, c'est dangereux parce qu'il y a des personnages, des mages et des vampires. Mais sinon, c'est pas plus dangereux que si vous sortez dans Épinal. Épinal est peut-être même un peu plus dangereux maintenant vu la température et la pluie.
Est-ce qu'en fait, vu le titre, Fabrice, monde terrifiant, monde flamboyant, un monde doit-il être terrifiant, un univers de roman doit-il être terrifiant pour être flamboyant et donc attractif?
Qu'est-ce que c'est que cette question?
Qu'est-ce que c'est que ce thème là?
Ouais,
And I said, what this stupid thing?
What are we doing here? Ouais. Est-ce que le monde doit être terrifiant pour être flamboyant? C'est quoi un monde flamboyant? Je sais pas, on est bien embêté. Please, someone help me.
Allez, Christine est habituée, puisque son héroïne est au départ une tueuse professionnelle, elle doit savoir se tirer du pétrin.
Okay, well, many people in our world are professional killers. I said this in an earlier panel, I try to be as realistic as possible when writing my fantasy. I think that it's about the real world. I don't think it's any more terrifying than the real world.
Oui, donc je pense que finalement, à la limite, tout le monde peut être un tueur professionnel. Et moi, en tout cas, quand j'écris mes intrigues de fantasy, j'essaye de les rendre aussi réalistes que possible. Et finalement, elles ne sont pas différentes du monde réel et pas plus terrifiantes que le monde réel.
We're not going to sit down and write a story about nothing happening. I mean, that's why we write fantasy and not literary fiction.
Bien évidemment, on ne va pas écrire des histoires où il ne se passe rien, parce qu'on est quand même en train d'écrire de la fantasy. Donc forcément, il faut qu'il se passe des choses et que ces choses soient évocatrices pour le lecteur.
Something else to say and completely left my mind.
But thank you.
It was brilliant.
Anyway, j'ai trouvé quand même un truc à dire. J'écrivais, là j'ai un bouquin qui s'appelle Winterhelm, qui est une réédition, qui est un livre qui a été écrit il y a 14 ans, 15 ans, qui est un livre de fantasy. Aujourd'hui j'écris plutôt du thriller, c'est pas un changement complètement radical, ça veut pas dire que j'abandonne l'imaginaire pour aller vers le réel, mais quand même ce glissement se retrouve chez un certain nombre d'auteurs de ma génération, en tout cas des auteurs français. Je pense à des gens comme Henri Le Rennebruck, par exemple, qui ont suivi ce cheminement-là, et ça veut peut-être dire quelque chose. Est-ce que c'est une façon peut-être de mûrir en tant que personne, par rapport à notre perception du monde, et se dire que finalement on n'a pas nécessité d'inventer des mondes complètement fantasmagoriques pour raconter une histoire qui soit flamboyante et terrifiante, parce que les éléments qui peuvent rendre les histoires flamboyantes et ou terrifiantes sont effectivement déjà dans le monde réel. C'est une question de point de vue, c'est une façon de présenter les choses. Donc moi, on va écrire un thriller aujourd'hui qui se passe ici et maintenant, enfin, en l'occurrence aux États-Unis, et les gens me disent « c'est votre truc est horrible, comment vous, enfin, d'où viennent ces idées atroces ?» Et elles viennent du monde réel. Ce sont en l'occurrence, sur mon dernier roman « Ta mort sera la mienne », je m'inspire d'un fait divers qui est très peu connu parce que c'est quelque chose qui s'est passé en Australie sur une sorte de secte, mais j'ai quasiment rien inventé. Donc les gens sont horrifiés, ils pensent que c'est vraiment l'imagination de l'écrivain et à la limite ils se disent mais ce type est un peu malade. Et en vérité j'ai lu des articles, j'ai lu des reportages ou des confessions de gens qui sont passés par certains endroits qui on descend vraiment dans les tréfonds de l'âme humaine, mais je ne suis plus dans l'invention et pourtant je pense que l'impact sur le lecteur, même s'il n'est pas exactement le même que celui d'un monde où qu'on aura totalement inventé, peut être aussi fort.
Marika, une question que le lecteur se pose chaque fois qu'il entame un nouveau livre, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous inventer comme monde et surtout, quelle est l'originalité de ce monde. Alors, vous faites-vous dans une sorte de bitlit, tout le monde, enfin, il y a des tas de bouquins de bitlit, comment est-ce qu'on trouve son originalité par les caractères, par le décor, par une intrigue particulière?
Alors, je pense que mon originalité, c'est que j'en avais jamais lu avant. Donc j'ai pas...
C'est plus facile.
Voilà. J'avais vu Buffy et je me suis inspirée de ça. J'ai fait... Je sais pas si j'ai cherché vraiment de l'originalité. À la base, j'ai cherché à m'amuser. J'avais fait un personnage qui était une anti-Bella. Je l'ai confrontée à des vampires. Et ça a donné ça. Donc comme Christine, je suis aussi plus centrée sur les personnages et les interactions et entre les personnages. À jouer sur des clichés aussi qui clairement peut être lu au premier degré ou au deuxième degré, sont chouettes les deux, j'espère, mais j'ai pas cherché d'originalité, j'ai juste cherché à m'amuser.
Voilà qui est bien. Et Christine, les sept royaumes, on en trouve beaucoup dans la fantasy, des choses du genre. Là aussi, même si votre univers n'est pas le principal chez vous, c'est les personnages, est-ce qu'on peut être dans un nouvel univers chaque fois qu'on entame une histoire de chez vous?
Well, my universe is, well, technically at this point, because it's grown a bit, rather than seven kingdoms, it's eight kingdoms and one monarchical republic. What is it called? Constitutional monarchy, yes. something like that. I should know. I shouldn't be asking you what it is. There are certain specific differences that I was very deliberate with. For example, my world is a vaguely medieval sort of world. People carry swords. There are no guns yet. It's pre-industrial. But there's no religion. Which, if you can imagine, the Middle Ages with no religion, that would be a very different world. So,
à présent, le monde que j'ai bâti finalement au fil des romans, il y a bien plus que sept royaumes, puisque à l'heure actuelle, on en est à huit royaumes et une monarchie constitutionnelle. Mais il y a quand même un certain nombre de différences entre le monde que j'ai bâti. Et d'autres mondes de fantasy un petit peu autour des monarchies. C'est-à-dire que ce monde est effectivement un peu vaguement d'inspiration médiévale, mais avec un détail quand même qui a son importance, c'est qu'il n'y a pas de religion. Or, on n'imagine pas le Moyen-Âge sans la religion.
And this is partly because, as a reader of fantasy, when there's a rich, detailed religion or a bunch of gods or whatever in a book, that tends not to interest me as much as some of the other aspects of the story. But it's also because it gave me excuses for things like medicine is very advanced, more advanced than you might expect it to be in this world, because science it takes precedence over religion. I mean, I've actually now, God, I must seem like such a flake, but I forget the question. What was it? Can we step into a...
Alors en fait, donc sur le fait qu'il n'y a pas de religion, alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que moi je me suis aperçue que quand je lisais des romans de fantasy dans lesquels il y avait des aspects avec de la religion, des dieux, bah, finalement c'est pas cet aspect-là qui m'intéressait le plus dans le roman. Et puis le fait de ne pas mettre de religion, c'est aussi un petit peu une excuse pour moi parce que ça m'a permis de développer d'autres aspects, par exemple... un monde où la science pouvait être plus importante que la religion, qui me permettait de développer, par exemple, de la médecine ou d'autres aspects de ce monde.
Vous n'avez pas peur de copier les autres, c'est ça?
Oh, yes, I'm definitely, in fact, I tend not to read fantasy while I'm writing fantasy, and I'm almost always writing fantasy, so that means I hardly ever read fantasy, because of how it interferes with what I'm writing. There are so many similar tropes, and you start to feel like you sit down and you write something, then you go read something. First of all, you're tearing it apart mercilessly, because that's what you've been doing to your own writing all day, and secondly, you find something that's similar to what you just wrote, and you feel like you're a plagiarizer, even though you wrote it first. Yes. Writing fantasy has slightly ruined my ability to read fantasy.
Alors, moi, je fais attention, lorsque j'écris de la fantasy, à ne pas lire de la fantasy, ce qui fait que comme j'écris tout le temps de la fantasy, ben je lis quasiment jamais de fantasy. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a écrit toute la journée, qu'on a bâti un monde, on a voilà, et puis alors on lit un autre auteur, et puis paf, on tombe sur la même chose, on se dit ah ben voilà, j'ai travaillé pour rien. Ou bien on va se dire ah zut, j'ai l'impression d'être un horrible copieur, alors que finalement peut-être que c'est moi qui avais écrit ça avant parce que j'avais eu l'idée il y a longtemps. Et finalement, ça va ruiner le plaisir de l'écriture. Donc finalement. Bah, je me retrouve, finalement, je pense que je ne serai jamais vraiment lectrice de fantasy comme j'en écrirai.
Alastair, en science-fiction, le lecteur est habitué à trouver des mondes qu'il connaît un peu, hein, l'espace, etc. Et en même temps, vous devez faire œuvre originale, c'est-à-dire ne pas avoir cette difficulté de qu'on vous dise, ben, en fin de compte, votre monde, c'est celui de quelqu'un d'autre, c'est celui d'Arthur Clarke. C'est celui de Jacques, etc. Comment vous faites?
Well, to come back to something Kristin said, I always say that writing, being a writer, it's like the devil's bargain because you love the genre so much you want to write it. But in writing it, you end up sort of being unable to just read it innocently. And, you know, and I can't read science fiction innocently anymore. I'm too critical. So I also don't read a great deal of my own genre, particularly the sort of space opera, hard SF stuff. I might read like Ian Banks, his most recent novel, and that'll be my one science fiction novel for a year.
I read Alistair Reynolds.
Oui, pour la même raison, j'ai tendance à ne pas lire de. Enfin, Alastair a tendance à ne pas lire de science-fiction quand il écrit de la science-fiction. Et la seule exception éventuellement serait le dernier livre de Ian Banks. Mais autrement, il ne va pas lire de la science-fiction quand il crée de la science-fiction parce qu'il va être tellement critique à propos du travail d'un autre comme il le serait à propos du sien qu'il ne va pas le faire. Il va créer et puis éventuellement on ira lire de Ian Banks.
But I think the other thing is if you are a writer, you love the form you're writing in so much, you probably have already read quite deeply into the history of that form. And I've read a lot of science fiction going back a long, long way. And I was talking to a gentleman earlier this afternoon, and we were talking about Henry Kuttner, an almost completely forgotten science fiction writer. And there are others like Fritz Leiber, Cyril Kornbluth, Cord Wainer-Smith, all writers that I've read, and it's all in me somewhere. And I can't help but mix those ingredients around and come up with something probably original, because there are just so many permutations.
J'ai lu tellement de science-fiction, on va dire, historique, comme Kuttner, Kornbluth, Cord Wainer-Smith, voilà, que sans Fritz Leiber, que sans avoir besoin d'en relire, je fais probablement ma propre sauce à l'intérieur de moi et ça revient comme ça, quoi, en création.
And even like more recent writers like Gene Wolfe, you'd be surprised how many people who like science fiction and fantasy haven't actually read that many writers. So as soon as you start going slightly off the beaten track, you will bring in influences that they won't recognize it anyway. So you can just plagiarize to your heart's content, because they're just not going to know if you're doing it.
Il y a tellement de gens qui n'ont pas lu ces classiques qu'à partir du moment où vous sortez des écrivains, de l'influence des écrivains plus récents, vous donnez l'impression que vous avez inventé quelque chose, alors qu'en fait c'est quelque chose que vous avez lu probablement quelque part et que vous remettez à votre sauce.
But to be serious, it doesn't bother me. I don't worry about it. I just some of my novels are set in a consistent future. So obviously when I'm writing in that universe, there are constraints that apply. There are certain stories I can tell, certain stories I can't tell. But for that reason, I also like to write other stuff. And each book feels different for me and a little bit of an adventure into the unknown.
Pour être complètement franc, je m'en fous un petit peu, parce qu'en fait je suis inclus dans les contraintes de l'histoire que je suis en train d'écrire. Et ce sont ces contraintes-là qui m'entraînent dans ma création, et je m'occupe pas trop des influences que j'ai eues.
Just two examples. I think both books are not yet translated into French, but a book of mine from about 4 years ago was House of Suns, which was my attempt to do a very baroque, colorful, far future, technicolor color, sort of Gene Wolfe meets Cord Wainer-Smith in the year 6 million type book.
Celle-là, elle est un peu difficile. What's the name?
House of Suns.
House of Suns. Par exemple, j'ai écrit il y a quelque temps, j'ai oublié combien d'années, 4 ans je crois, 4 ou 5 ans, un livre qui s'appelait House of Suns, la maison des soleils. La maison des soleils. And what did you say about that?
Well, it's sort of, it's very, very far future baroque.
Ouais, c'est un truc dans un futur très très lointain baroque.
Almost fantasy.
Et presque de la fantaisie de temps en temps.
6 millions d'années d'ici, et il a ajouté, ce qui est amusant pour les connaisseurs, c'est un mélange de Gene Wolfe et de Cord Wainer-Smith.
But the book I've just finished, which is the one I've written, and I've now written the sequel, are books that are set in, they're my attempt to look 150, 200 years in the future, from our world, and not to sort of go into sort of realms of fantasy, but to think about climate change and geopolitics. So you have sort of China and India as sort of big powers in these books, and to also look at the headlines and think, well, you know, what kind of things are coming, like augmented reality, what's that going to do to us in 100 years? You know, how is that going to change the way we are? So that's a completely different way of thinking for me than the other type of book, but that's how I stay fresh anyway, is to sort of change it every now and again.
Merci. Donc la dernière série de livres que j'ai écrite se situe dans 150 ans et tient compte des effets, par exemple, du changement climatique sur la géopolitique et d'un certain nombre de choses qui nous lient plus à la réalité de maintenant plutôt que des choses qui sont dans un futur extrême, et de voir comment les effets du monde actuel vont jouer sur les évolutions de l'humanité en incluant des thématiques telles que la bio-ingénierie, la robotique, and give me another one. I don't know. Yeah, voilà. Yeah, you got it.
Merci. Alastair, encore une question pour vous. Dans votre série sur les inhibiteurs, en fait, pour les inhibiteurs qui sont des espèces de vaisseaux qui traversent l'espace et qui n'ont qu'une seule mission, c'est de détruire toute autre vie. Est-ce que c'est une idée, je vais lâcher le morceau, est-ce que c'est une idée que vous avez purement et simplement copiée à Fred Sadorhagen et ses Berserkers?
Well, that's a good example of where if you worry about being influenced, you wouldn't write anything, because someone will already, there will always be someone who's done that idea before. And when I published my first novel, a few people said, oh, it's a bit like Fred Sadorhagen. And I was like, yes, I'd totally forgotten about Fred Sadorhagen. But it wasn't conscious sort of imitation. And I hope that there's, the way I've treated that idea is different. And I can think of other writers who've sort of come at that idea as well. But, you know, everyone brings their own sort of magic mix to the table, I think.
Quand vous écrivez un truc, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Ah tiens, ça ressemble vachement au truc de machin. » Mais en même temps, vous avez créé votre nouveau monde. Putain, je vais me perdre. Vous avez créé votre nouveau monde et ça ressemble toujours à quelque chose. Ça ressemble toujours à une influence, ça ressemble toujours à quelque chose. Mais vous y apportez votre propre brique.
Il y a apporté sa propre brique, hein, je confirme. Marika, vous allez, vous, je vais employer un vilain mot, enfermé dans votre monde, vous avez envie en tant qu'écrivain d'imaginer parfois quelque chose d'autre que ce monde-là.
Que ce monde-là, oui, évidemment. Je suis rentrée dans ce monde un peu par erreur, mais je suis contente dedans, je m'amuse énormément. Ouais, c'était pas. J'ai jamais en fait pensé que j'allais l'écrire avant de l'avoir écrit. C'est un peu. Il m'a happé, il m'a prise et j'ai écrit très rapidement le premier. J'ai beaucoup travaillé, mais il est sorti très vite. Et avant, j'écrivais plutôt au début, quand j'écrivais, j'étais plutôt dans la fantaisie. J'aimais les créatures qui n'existaient pas, les dragons, les choses qui faisaient vraiment rêver, qui au contraire faisaient sortir du monde de tous les jours, hein, de la météo au final. Et après, j'ai plutôt passé sur thriller, polar, les policiers. J'adorais devoir deviner qui était le méchant avant que le héros trouve la réponse. Et je suis tombée là-dedans. C'est très amusant, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai maintenant, avec justement les contraintes que je suis pour mon univers, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et c'est vrai que les séries que j'ai, qui commencent à émerger maintenant à cet été, ont des univers beaucoup plus conséquents et différents.
En attendant, il y aura encore des jeux de mots sur les dents?
Non. Enfin, dans ces bouquins-là, oui. Il y aura des jeux de mots pourris sur plein d'autres choses. Mon éditrice fait déjà la fête.
Christine, vous avez envie de sortir de la fantasy ou bien de vous inventer et de vous inventer d'autres mondes?
Well, as it happens, after my third. My third book took me 4 years to write, so it was not the plan, but I really needed a break from fantasy, so I have written a contemporary realistic book, and I also have written a very high concept book that I'm not ready to talk about yet because I literally finished it 2 weeks ago. My editor is just reading it now, so the answer is yes, definitely. I plan to write another, I'm plotting another fantasy in my world, which is going to expand again. And I don't know what's beyond that, but I have no doubt that I will give it another shot with a brand new world at some point, being a bit more careful this time. Although you always say that, and you think you're prepared, and you never are actually prepared for what you think, you know, what you throw yourself into.
Alors en fait, après le troisième livre, donc Bête bleue, qui a pris 3 ans à écrire, là j'avais vraiment besoin d'un break, j'avais vraiment besoin de sortir de la fantasy. Et donc j'ai écrit quelque chose de totalement différent, qui est en fait un roman réaliste contemporain. Alors en fait, je ne veux pas trop en parler, parce que j'ai fini d'écrire il y a 2 semaines, et là il est chez l'éditeur, donc j'attends. Bien évidemment, après ça, je pense que je vais de toute façon reprendre quelque chose et encore élargir mon monde. Et dans le futur, il n'est pas exclu que j'en crée un autre complètement différent. Et là, je serai beaucoup plus soigneuse, je ferai beaucoup plus attention dès le départ quand je commencerai à le mettre en place, parce que je sais les incidences que ça peut avoir derrière.
Alastair, quand est-ce que vous allez commencer à écrire de la bit-lit?
Well, never say never. I just, my only guiding principle as a writer is just follow your obsessions. Do write what really fires you up, what you really want to write about. And I've been lucky. I wrote the first 4 novels of my career were all in the same universe. And then I said to my editor, well, the next one's going to be set in Paris in 1959, but it is still science fiction. Are you okay with that? And she said, yeah, okay, has it got spaceships in? Yeah, okay, off you go.
ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Je parlais à mon éditrice et je lui disais...
Après le quatrième oui, volume après. Du même monde, il yeah. serait temps que je change.
Oui, voilà, c'est ça. Mais je suis désolé parce que moi, c'est trop long et j'oublie pendant un deuxième micro.
Et alors, il disait que il avait une histoire qui se passait à Paris en 1959 et son éditeur lui a dit « Ok, s'il y a des vaisseaux spatiaux ». Et il a dit « Ok ». En fait, c'est voilà, plutôt du voyage dans le temps, hein, à la serre. C'est plutôt du time travel.
Yeah, it turns out to be sort of, well, kind of, there is actually no time travel in it. It's a sort of weird thing with wormholes and alternate realities and stuff, but it sort of starts, well, a lot of the book, I said, well, at the time I was pitching it to my editor, it was going to be like sort of a more like a May Gray detective story set in Paris, which is sort of what it ended up being. But they, you know, they were okay about it, and for me it was a way of planting a flag in a different part of the imaginative literature. To say I don't just want to do this stuff, I also want to do this stuff over here.
Thank you for that one. Bon, c'est un truc avec des trous de verre, avec des vaisseaux spatiaux, etc. Mais à l'origine, ça devait être un truc sur une enquête un petit peu à la Maigret, etc. Et à la fin, on finit avec complètement autre chose, et de toute façon, c'est la création.
Mais c'était aussi ma façon d'aller planter mon drapeau.
Oui, c'était aussi ma façon d'aller planter mon drapeau dans d'autres territoires. Ouais.
Fabrice, quand on est un écrivain qui crée plusieurs mondes différents et d'un peu dans tous les domaines, voilà, on se dit, on a une idée, est-ce qu'on sait directement dans quel univers, dans quel genre d'abord, et dans quel univers on va planter cette graine-là?
Bah, la question des genres, j'ai l'impression qu'elle se pose de moins en moins. Ça ne m'intéresse pas tellement. Déjà, je suis un grand connaisseur des genres littéraires, où s'arrête la fantasy, où commence la science-fiction, etc. Donc, je ne me pose pas ces questions quand j'écris. J'ai écrit dernièrement un livre qui s'appelle 49 jours, qui est plutôt un livre Young Adults, qui est vraiment à la fois science-fiction, à la fois fantastique, à la fois fantasy. Et je suis assez content. Non pas d'avoir fait ça, c'était pas le but en soi, mais de me dire, voilà, finalement j'ai un imaginaire qui se moque un petit peu de ses frontières, et je pense que la plupart des lecteurs maintenant, en tout cas en littérature young adults, après ça peut, les goûts peuvent s'affiner, mais au départ les gens veulent juste lire une bonne histoire, et ils se moquent un petit peu de ces frontières strictes entre les genres. Maintenant, le fait d'être multitâche comme ça, et d'avoir plusieurs cordes à son arc, est plutôt quelque chose d'agréable. C'est-à-dire que oui, je me laisse la possibilité d'écrire dans différents genres, au gré des inspirations. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment j'ai envie d'écrire de la fantasy ou du thriller, etc. C'est quelque chose qui est assez mystérieux. J'ai le sentiment que si je commençais à analyser ces processus-là, ça pourrait gâcher un petit peu le plaisir. Donc je me pose pas la question.
C'est plus facile de ne pas se poser la question, en effet. Hein.
Dans tous les domaines, ouais.
Il est 6h10. On nous a demandé de terminer toujours 10 minutes avant l'heure, de façon à pouvoir permettre aux suivants de venir. Alors on va en terminer là. Je vous remercie beaucoup de votre... vous étiez en nombre et attentif. Merci autour de moi à Sylvie et Christine, Marika, Fabrice et Alastair, ainsi qu'à Laurent. Bonne soirée.